une histoire particulière. Après l'orgueil, l'envie, la colère, l'avarice et la paresse, voici le sixième péché. C'est mon préféré de notre collection Été 2018 d'une histoire particulière. C'est maintenant, jusqu'à 18h, l'heure du récit documentaire. Une histoire va commencer, une histoire singulière, une histoire vraie. Il peut se matérialiser sous de nombreuses apparences, tantôt sous les traits d'un homme ensanglanté, le corps envahi de mouches, tantôt sous les traits d'un homme gigantesque, au visage bouffi, aux yeux de braise, avec des cornes de bouc et portant une couronne de fer. Sa peau est alors de couleur noire et couverte de longs poils de la tête aux pieds. Il a des ailes de chauve-souris, des pattes d'oie et une queue de lion. Tantôt, il peut surgir sous une forme animale, celle d'un bœuf par exemple, d'un serpent, d'un veau énorme, d'un bouc et même d'un léopard. Tantôt celle d'un dragon rouge à 7 têtes et 10 cornes, un peu comme la bête de l'Apocalypse. Enfin, il aime apparaître sous la forme d'une grosse mouche bourdonnante et agaçante. Ce seigneur du fumier porte le titre de prince, juste en dessous de Lucifer. Vous avez deviné ? Belzébuth est son nom, la gourmandise est son péché. Voici tout de suite un exemple, raconté par Michel Pomaret et François Test, les gourmands attitrés de l'équipe d'une histoire particulière.
Les recettes du plaisir. Écoutez la voix des haricots. Michel Pomarède, François Test.
Tohanga, Gemba de Kashia Ice, 250個を飲食。事務所荒らしを繰り返しながら侵入した現場で菓子やアイスなど250個を食べていた男が窃盗容疑で逮捕されました。石川県出身51歳の男は東京と石川県で事務所荒らしを繰り返していました。
Mars dernier, Tokyo, la télévision japonaise diffuse un fait divers, et ce fait divers, c'est vous, Guillaume Loiret, qui êtes spécialiste du Japon, qui nous le racontez.
Alors le fait divers, il implique un monsieur effectivement qui est recherché par la police parce qu'il dévalise des bureaux, et ce qui l'intéresse visiblement, c'est pas l'argent, ce sont pas les objets, mais c'est la nourriture. Donc ce qu'il fait ce monsieur, c'est qu'il va directement au réfrigérateur de l'endroit dans lequel il s'est introduit, et il mange en priorité des gelées, des puddings, des cakes et des glaces. Et il va se faire avoir, ce monsieur, apparemment, ça dure 3-4 ans, ce que dit le journal. Et il va se faire avoir par sa gourmandise, parce qu'il laisse tomber un bâton d'une glace sur le sol d'un endroit dans lequel il s'était introduit. La police a une empreinte ADN, avec les caméras, il recoupe, il le retrouve, et c'est avec ça qu'il l'arrête.
Le surnom de ce voleur ?
Et ce monsieur, la police l'avait surnommé Sato, donc Sato, ça veut dire le sucre.
J'aime tous les gâteaux. Baba au rhum, j'aime tous les gâteaux, surtout le baba au rhum.
250 desserts, 40 forfaits entre 2013 et 2017, et l'addition, Guillaume Loiret, elle est salée. Les pertes atteignent la somme de...
Il aurait mangé et volé pour 5,2 millions d'yens, ce qui fait environ 45 000 euros. Hein, ouais.
La tarte tropézienne, le 4-quart au pruneau, j'aime tous les gâteaux.
Alors ce qui est étonnant dans ce fait divers, Guillaume Loiret, c'est que ce voleur ne s'intéresse pas aux pâtisseries classiques japonaises, peut-être qu'il n'y en a pas dans ce réfrigérateur, notamment les dorayaki. Alors, les dorayaki, ça vient d'où et pourquoi est-ce que finalement c'est peut-être la pâtisserie qui est l'emblème du Japon ?
Bah effectivement, le voleur, il s'intéresse plutôt à des pâtisseries qui sont occidentales. Il trouve pas de dorayaki là. Alors, soit effectivement, il n'y en a pas, soit c'est pas son goût. Mais le dorayaki, c'est une pâtisserie japonaise traditionnelle, mais qui est réalisée avec une génoise qui n'est pas japonaise, qui vient d'Europe, qui vient des Portugais en fait. Dorayaki, c'est un dessert. C'est pas vrai. On peut pas dire que c'est un dessert. En fait, c'est une douceur. Les Japonais mangent pas de sucre à la fin du repas. Au Japon, normalement, le sucre, le gâteau, le bonbon, on va dire, c'est fait pour accompagner la cérémonie du thé. Et c'est le thé qu'on appelle le matcha, donc ce sont des feuilles de thé qui sont pilées, c'est un thé qui est assez mousseux et qui est très amer. Donc pour préparer le palais avant une cérémonie du thé, ou même avant un thé normal, c'est l'habitude japonaise, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à l'invité le wagashi. Le wagashi, c'est la douceur japonaise. C'est la douceur faite selon les ingrédients et les règles de la douceur ou du dessert asiatique, dans le fond. Parce qu'en Asie, on n'a pas de produit issu de l'animal pour un dessert. Il n'y a pas de lait. Donc ce sera essentiellement des légumes et puis du riz, parce qu'on fait beaucoup de desserts et de gâteaux avec du riz. Et le dorayaki sont donc deux petites crêpes. Ça ressemble à de la génoise, mais c'est pas exactement pareil, c'est un peu plus spongieux. Deux petites crêpes, à l'intérieur desquelles on va mettre ce qu'on appelle l'anko. Anko, c'est le composant vraiment complètement classique, traditionnel des desserts asiatiques. Anko, ce sont des haricots rouges qu'on appelle azuki. En japonais, ces haricots rouges, on va les faire cuire dans de l'eau avec du sucre. Donc ils ressortent de ça un peu confits et sucrés. Et c'est avec ça qu'on va fourrer ce petit dessert qu'on appelle, cette petite galette qu'on appelle dorayaki.
Laboratoire. Voilà, c'est une vieille cave, ma foi, du 18e siècle qu'on a refait, qu'on a entièrement recouvert d'inox, mais les murs sont bien derrière, hein. Comme dans la salle à côté, c'est tout voûté, c'est assez joli.
Alors, Robin Gaillard, au-dessus,
oui.
C'est votre pâtisserie Tomo.
Exactement.
Ici,
c'est le laboratoire, parce que tout est fait maison, tout est fait sur place et tout est fait à l'ancienne, dans la cave, sous la pâtisserie.
Et devant nous.
Et devant vous, c'est le bac qui sert à cuire les haricots rouges, les azuki. Voilà, c'est un grand pot en cuivre, effectivement, qui vient du Japon, et dans lequel on fait confire les azuki, en fait.
Pour regarder ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors là, vous avez deux étapes. La première étape, c'est une étape de cuisson. Donc on va les cuire à l'eau, ça va nous prendre quasiment une journée entière de travail. C'est un petit peu long, voilà. La cuisson à l'eau, et ensuite, ici, la partie confiserie. Donc une fois que c'est bien cuit avec différentes températures, différents bouillons, différents temps de repos, on arrive donc dans le cuivre, et là on va le porter à peu près à 230 degrés, et on va ajouter le sucre petit à petit, pareil avec des temps de repos, et ça va confire un peu comme les marrons glacés, ou la crème de marron, un peu dans l'esprit. Voilà, bon, le goût est quand même assez différent, mais en termes de texture, c'est ça.
Romain Gaillard, la première fois que vous avez mangé un dorayaki, c'était quand ?
Voilà, c'était il y a fort longtemps, je pense que j'étais adolescent, et ça devait être chez Toraya à Paris. C'est vrai que c'est un peu la maison historique des Wagashi à Paris. Ils nous ont fait un peu découvrir ça. Bon, moi, ensuite, je suis allé au Japon pour les connaître un peu mieux, parce qu'il y a un peu qu'eux qui faisaient ça à l'époque à Paris. Donc au Japon, j'en ai mangé beaucoup. J'en ai mangé vraiment énormément.
Et alors, qui vous a enseigné l'art de préparer le dorayaki à Paris ?
Moi, j'ai commencé en stage chez Aida, qui a une étoile Michelin dans le 7e. C'est un restaurateur. C'était l'un des premiers, je crois, d'ailleurs, à avoir une étoile en restauration japonaise teppanyaki. Et puis ensuite, j'ai travaillé au Japon, donc j'ai continué d'apprendre au Japon. Et en revenant ici, nécessairement, j'ai voulu les faire découvrir un peu aux Français. Mais ça reste quand même assez confidentiel, hein, des Français, hein, en général. Donc voilà.
Ce dorayaki, c'est un peu un symbole de la nourriture japonaise, parce que d'une part, la garniture, donc le haricot rouge, c'est complètement asiatique, c'est complètement chinois. Hein. Les Japonais tiennent ça de la Chine comme un certain nombre de choses chez eux. Par contre, le gâteau, la génoise, elle vient d'Europe. Elle est arrivée par la mer, elle est arrivée par le biais des missionnaires portugais. En gros, la première rencontre du Japon et de l'Occident, c'est vers 1550. Il y a des marins espagnols, les missionnaires portugais arrivent ensuite. Ils débarquent dans la région de Kagoshima et montent ensuite à Nagasaki. Donc là, on est à l'extrême sud-ouest du Japon. Et dans leur bagage, il y a des choses que les Japonais n'ont jamais vues. Des crucifix, notamment, des longues vues, des livres d'anatomie, etc. Et puis, il y a certains desserts, certains mets, notamment les fritures tempura, et puis aussi l'usage du sucre dans la génoise et dans les crêpes que les Japonais connaissaient pas. Et les missionnaires portugais, et puis de toute façon le christianisme, tout le monde va être expulsé au début du 17e, la religion devient interdite au Japon, mais les Japonais vont garder ce qu'ils ont, leur semblait quand même important, et notamment la manière de faire la génoise avec de la farine et des œufs. Et ça va donner ce qui est devenu au Japon aujourd'hui probablement la douceur la plus populaire qu'on appelle dorayaki.
Et jusqu'en 1914, Guillaume Loiret, ce dorayaki, c'est une seule génoise avec du haricot rouge, et en 1914, donc un pâtissier japonais à Tokyo, invente la couverture, et donc ce Dora, c'est presque la forme d'un gong aussi, il faut le dire.
Voilà, c'est pas que la forme, parce que Dora veut dire gong, hein. Donc en japonais. Les Japonais ont inventé, trouvé une légende qui pouvait raconter ça, c'est celle de... Alors il y a dans l'histoire japonaise, il y a un chevalier sans peur et sans reproche qu'on appelle Benkei. Benkei, c'est un moine soldat, il lui arrive toutes sortes d'aventures, il participe à toutes les guerres qui fait celle de la période Edo. Et bon, en tout cas, il y a une aventure dans laquelle ce Benkei doit remercier un paysan qui l'a caché, parce qu'il était poursuivi, et il n'a qu'un gong sur lui, il n'a pas d'argent ou de choses à lui donner, mais grâce à ce gong, il va le renverser et il va s'en servir de plaque de cuisson. Et effectivement, au début, visiblement, donc c'était... Alors c'est important, c'est un dessert qui était ouvert. En général, les desserts japonais sont fermés, c'est-à-dire que le contenant enveloppe complètement le contenu, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, même si on le sait. C'est comme un cadeau, absolument. C'est un cadeau qu'on va ouvrir avec les dents, du coup. C'est vrai que c'est important au Japon, on ne voit pas en général l'intérieur de certains plats et l'intérieur des douceurs et de ce qui est sucré. Dorayaki, c'est différent. Au contraire, on va mettre en avant ce qui est appétissant, c'est-à-dire donc le haricot rouge avec cette couleur qui est grenaille, et une consistance un peu de crème de marron. Et effectivement, probablement sous l'influence d'habitudes alimentaires occidentales, parce que le Japon donc, s'ouvre à l'Occident vers 1870, quand le dorayaki devient un petit sandwich 1914, le Japon s'est occidentalisé vraiment à marche forcée, très rapidement, c'est ce qu'on appelle la période Meiji, la période des Lumières. Et les habitudes vestimentaires, intellectuelles et alimentaires de France, d'Allemagne et de Russie principalement, surtout de France et d'Allemagne, sont très importantes au Japon. Donc, je vais peut-être un peu loin pour dire ça, mais il est probable que la forme de sandwich avec la garniture visible que va prendre le dorayaki début XXe siècle, elle vienne de nos habitudes françaises et européennes, ouais.
Le dorayaki, Guillaume Loret, c'est aussi l'objet d'une fiction en 2015 de Naomi Kawase, donc cette grande cinéaste documentariste qu'on connaît pour des sujets sur la disparition, la gémilité, enfin des choses très très profondes. Et tout d'un coup, il y a 2 ans, elle raconte une histoire de gâteau, donc dorayaki. Mais le titre japonais, c'est pas Délices de Tokyo, c'est quoi ?
Oui, en japonais, le film s'est appelé An. Et An, ça veut dire la pâte de haricot rouge sucré. On dit An ou Anko. Donc le distributeur du film en France a eu besoin de faire quelque chose qui parle de Tokyo, qui évoque le Japon que les Français aiment bien ou croient à connaître. Mais pour les Japonais, le titre d'un film comme ça, c'est un film qui va parler de nourriture et qui, on le sait bien, ça va parler de transmission, de génération, de l'amour qu'on donne avec la nourriture. Les Japonais, c'est pas étonnant, préférons juste le nom du plat, An. Ce qui... à la fois dit les sentiments qu'on va trouver dans ce film, et aussi, quand on dit seulement le nom de ce plat, les Japonais, ça leur évoque l'enfance. An, la pâte de haricots rouges sucrés qu'ils mangeaient quand ils étaient petits. Voilà, il y a un côté nostalgie gastronomique qui est important dans ce titre et dans ce film.
Dans ce film, Les Délices de Tokyo 2015 par Naomi Kawase, Guillaume Loiret, on entend la phrase peut-être clé du film « Écoutez la voix des haricots ». Est-ce à dire qu'un plat, c'est un être vivant ?
C'est pas très loin de ça. C'est très japonais comme idée, si on veut le relier à... quelque part à ce qu'on appelle le shintoïsme, qui est l'animisme japonais, et qui considère que n'importe quel élément naturel est la demeure d'un dieu. Ce qui conduit à sacraliser tout ce qui nous entoure, et donc à sacraliser, évidemment, ce qui pousse dans la terre et qui nous permet de vivre. Donc, voilà, pour pour les ruines du film de Naomi Kawase, effectivement, parler aux haricots, c'est parler au divin et à ce qui nous permet de nous rassasier. Et c'est vrai que le lien avec l'ingrédient chez les Japonais, il me semble plus important que dans notre cuisine à nous. Le lien avec le producteur de riz, si vous faites du sushi, ce sera quelque chose d'extrêmement important. Le lien avec le haricot que la dame fait cuire. En général, il y a un rapport d'amour qui me semble plus fort. Et a fortiori aussi dans la mesure où un restaurant japonais, en général, ça prépare qu'une seule recette. Vous êtes un restaurant de tempura, vous des frites, vous ferez que ça. Vous faites des nouilles soba, les nouilles de blé noir, vous faites que ça. Ce qui fait que vos nouilles de blé noir, effectivement, vous leur parlez, vous leur avez peut-être donné un surnom, vous les connaissez très bien, vous connaissez par cœur le temps de cuisson qu'il faut, etc. Pour le haricot rouge, c'est pareil.
Romain Gaillard, arrêtons-nous sur la recette. Oui. Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour bien faire un dorayaki ? Il y a la pâte, qui est un peu la génoise,
tout à fait.
Et la pâte de haricot rouge. Les ouais. deux vont se composer en ouais. un dessert, mais
ensemble.
Racontez-moi la recette, mais quel est le plus difficile ou comment ça s'agrège ?
Alors, le plus difficile, clairement, c'est la cuisson des haricots rouges. Hein. C'est la fameuse blague des haricots qui ne veulent pas cuire. Là, clairement, c'est tout à fait ça. Ils ne veulent pas cuire. Soit ils sont trop cuits, soit ils ne sont pas assez cuits, soit ils sont trop sucrés ou pas assez sucrés. C'est vraiment l'étape difficile. Nous, on a des petits haricots rouges, donc des azuki, hein, les fameux, la variété japonaise.
Ils viennent d'où, ceux-là ?
Ils viennent du Gers. Ils poussent dans le Gers. Voilà. Alors bon, il y a plusieurs choix, hein. Évidemment, vous pouvez les acheter de Chine, vous pouvez les acheter du Japon, et puis il y a des gens qui le font dans le Gers, une petite coopérative de producteurs qui font ça bio dans le Gers. Mais c'est vrai que ils sont plus secs, ils arrivent chez nous plus secs, même s'ils sont frais de la récolte. Voilà, ouais.
Résumons, le haricot rouge vient du Gers, oui. Vous le mettez à tremper, Romain Gaillard, oui. dans l'eau du robinet parisienne,
exactement.
Filtré.
Oui.
Ensuite, ça passe dans la cocotte.
Oui, tout à fait. Là, il vient cuire. On va le porter à ébullition, le refroidir.
La proportion d'eau, la proportion d'haricots, c'est quoi ?
Pour arriver à les faire cuire, c'est un énorme bain d'eau qu'on va faire bouillir. Ensuite, il y a un petit secret, ce qu'on appelle le bikkurimizu en japonais. C'est l'eau surprise. C'est-à-dire que vous les faites cuire, vous les portez à ébullition. Ensuite, vous jetez la moitié de l'eau et vous remettez un grand coup d'eau froide. Et en fait, ça les surprend, si vous voulez. Ils sont surpris de ce léger chaud-froid. Et là, on arrive à quelque chose qui les fait rider. En fait, vous avez une petite ride sur la peau du haricot. Et quand ils commencent à rider, vous savez qu'ils sont... Ouais, c'est le truc.
Romain Gaillard, il y a un film de Naomi Kawase qui s'appelle « Délices de Tokyo
oui. »,
que vous connaissez.
On connaît, bien sûr.
Qui raconte donc l'histoire des dorayaki.
Un livre aussi, qui a reçu un prix récemment, d'ailleurs.
Une phrase clé de la vieille cuisinière, c'est « J'écoute la voix des haricots ».
Écoutez la voix des haricots, tout à
Est-ce
fait.
Est-ce que vous faites ça ?
On les entend, en tout cas. On les entend cuire, clairement. Bah là, bon, c'est de la vapeur d'eau, hein, donc on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de bruit. Bon, là, on a beaucoup de frigo et de machines qui tournent, donc c'est difficile à entendre.
Mais au-delà de ce bouillon,
oui.
que vous racontent les haricots rouges dans votre façon, dans votre art de les traiter, de les cuisiner ?
Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile, hein, même pour nous. À chaque fois, ils sortent à peu près pareil à chaque fois, mais pas toujours.
Mais est-ce que la cuisson ou l'art de préparer le haricot rouge,
ouais.
ça dépend aussi de votre humeur, si vous êtes fatigué, vous êtes mal luné, est-ce que ça influence ?
Ah ouais, bien sûr. Il y a un programme en japonais dont je ne me souviens plus en japonais, je ne pourrais pas vous le dire en japonais, mais qui dit que les gâteaux sont le reflet de la personne qui les crée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, surtout dans les wagashi, donc la partie japonaise vraiment traditionnelle. C'est des produits en général très simples, tout droit, il n'y a pas beaucoup de décor, il n'y a pas beaucoup de fioritures, il n'y a pas beaucoup de... voilà. C'est vraiment le produit. Et du coup, bah oui, il y a l'humeur effectivement de la personne qui est dedans, bah parce que voilà, on va les laisser un peu trop cuire ou pas assez, on va les sucrer un peu plus selon quand on va les goûter. Et donc ça reflète tout de suite beaucoup plus effectivement l'humeur ou la façon dont tu as voulu travailler l'artisan en question.
Guillaume Loiret, depuis 1988, à la télévision, un héros récurrent, une gourmandise, et sur les écrans, son nom c'est quoi ?
Alors c'est Anpanman son nom. Anpanman, c'est le super-héros du petit pain. Dans le monde des dessins animés, ce qu'on appelle les animations et des bandes dessinées japonaises, depuis longtemps, il y a quand même un focus important sur la bouffe. Il y a des épisodes qui sont entièrement consacrés à un plat, une nourriture, etc. Je crois pas qu'on ait l'équivalent en France de séries animées ou de bandes dessinées qui fassent autant de place à la nourriture. Donc les Japonais ont toujours eu des super-héros qui étaient liés à la bouffe. Et il y en a notamment deux qui sont importants. Il y en a un, c'est Doraemon. Doraemon, c'est un petit chat, un chat robot qui adore les dorayaki, justement, et à qui il arrive toutes sortes d'aventures parce qu'il recherche à manger assez souvent. Et Anpanman, lui, c'est un héros dont la tête est constituée d'un Anpan. Alors Anpan, c'est un petit pain qui est fourré au haricot rouge, à l'azuki dont on parlait tout à l'heure. Et ce petit héros à la tête au pain fourré, ses camarades sont aussi des petites têtes de pain. Alors on a le pain de mie, il y en a un qui a un pain au curry. Bon, ils sont tous à manger. Et ce Anpan Man, il diffuse une espèce de morale sacrificielle, parce que Anpan, quand il est avec quelqu'un qui a très faim ou qui est faible, il lui permet de manger un morceau de sa tête. Donc il sauve la vie, etc., de la personne qui aura mangé un morceau, mais par contre Anpan Man derrière est très fatigué et il faut qu'il récupère, et à ce moment-là son père en fait lui prépare à manger.
Tadaima.
Okaeri.
Soyeba, kyou wa Hinata-mura ni ikun deshita ne.
Eh? Yakitate no pan o ippai motte ne.
Sa, shippatsu shiyo.
Hai.
Les avez-vous déjà vus cuire?
Au Japon.
Au Japon?
Romain Gaïa.
Oui.
Ça, c'est quoi?
Alors, bah, ça, c'est c'est la pâte qui va nous servir à faire le dorayaki. Donc, ce fameux mélange œuf, farine, miel, mirine, un petit peu d'eau et une petite pointe de bicarbonate aussi. D'ailleurs, dont je ne vous ai pas parlé, c'est vrai qu'elle aide à faire gonfler un petit peu le biscuit. Hop là. Bon, il y a un contrôle de texture. Ça, c'est à l'œil, n'est-ce pas? Là, je vois qu'elle est un petit peu trop rigide, donc je rajoute un tout petit peu d'eau. Donc, une plaque, effectivement, à 180 degrés, température stable, c'est vraiment hyper, hyper important. On va déposer donc une petite quantité de la pâte à dorayaki sur la plaque. On va essayer de la déposer bien rond. Au niveau de la cuisson, quand on va être prêt à la retourner, ça va commencer à buller, un petit peu comme les pancakes, comme les blinis. C'est un petit peu à mi-chemin. Dès que ça commence à buller, il faut les retourner. Et une fois qu'ils auront été retournés, on va pouvoir contrôler la deuxième partie de la cuisson avec la petite bosse qu'ils vont faire. Ça forme donc une sorte de disque avec au milieu un petit dôme, un petit peu comme une madeleine en fait, hein, ça gonfle par le milieu. C'est un petit peu la madeleine des Japonais, le dorayaki. C'est un petit peu leur madeleine de Proust, parce que ça leur rappelle souvent leur enfance. C'est un vieux gâteau. Et voilà, dès que ça bulle, normalement, pof, on est bon.
J'aime tous les gâteaux, le millefeuille, l'éclair au chocolat, la charlotte à l'abricot, les îles flottantes, le Paris-Brest, le 4 quarts au pruneau, la tarte à la crème.
Guillaume Loiret, résumons. Avant l'ouverture du Japon en 1853-1870, les Portugais missionnaires arrivent, certains se font couper la tête, mais on garde la pâtisserie qu'ils ont amenée dans leur bagage. Après, à l'ère Meiji, on va dire la pâtisserie ou la gourmandise qui vient d'Europe, du Sud, Espagne et Portugal, elle est digérée, elle est intégrée par le Japon. Mais est-ce qu'ils ont intégré aussi la notion de péché de gourmandise, qui vient peut-être aussi avec ces missionnaires chrétiens pour la plupart?
Le péché, oui. C'est un mot qu'on peut pas bien traduire en japonais, le péché. En général, c'est ce que disent les anthropologues qui sont intéressés au Japon début 20e, c'est que c'est pas une civilisation du péché, c'est une civilisation de la souillure, de la tâche. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a des tabous qui sont liés à certains comportements, qui sont liés au sang, à ce qu'on peut faire avec le sang. Mais donc on peut souiller quelque chose, mais c'est pas une souillure morale comme ce qu'on entend dans nos cultures judéo-chrétiennes par péché. Donc le péché de gourmandise au Japon, On dit pas aux enfants japonais que qu'il faut finir son assiette parce qu'en Afrique, les enfants n'ont pas à manger. On dit pas ça, on reproche pas aux gens de manger. De manière générale, au Japon, on criminalise pas la gourmandise, la sexualité, etc., comme on le fait chez nous. Donc, le péché de gourmandise, pour les Japonais, c'est plutôt une qualité d'être gourmand pour eux. Je crois pas que... Non, on n'utilise pas ce genre de choses là-bas. Pour moi, la gourmandise là-bas au Japon, elle se voit plutôt dans les quantités. C'est-à-dire que les Japonais mangent, c'est très copieux. La cuisine au Japon, c'est très très copieux. Parfois, on commande un plat, on a l'impression que c'est pour trois. Et ce qui est notable, c'est que c'est très copieux, mais que les Japonais sont sveltes. Donc, on se demande où ils mettent tout ça. Si à la fois, voilà, votre assiette peut être très copieuse, et puis c'est aussi, on dit souvent que la cuisine au Japon, la belle cuisine, c'est une manière de présenter les plats. Donc, c'est rendre l'assiette appétissante et intéressante, et même jolie à regarder. C'est le spectacle du plateau japonais. Donc la gourmandise, pour moi, elle est plutôt dans les yeux au Japon, dans la beauté, les couleurs, la fraîcheur des ingrédients qu'on va regarder, et aussi dans la quantité, parce qu'on peut se retrouver avec un énorme plat de pâtes, et comme ça on aura de l'appétit, on sera content de l'avaler. Et voilà.
Deuxième étape, après donc la cuisson du biscuit, Romagaya.
Oui. Alors, oui, tout à fait. Bah, là, on vient de faire cuire notre petit biscuit. Donc, il est tout bon. Il est bien doré. La texture est bien. Il est moelleux. Et on va le remplir, à ma foi, on va le garnir de anko. Donc, puisque le nom des haricots rouges, c'est azuki. Ça, c'est le nom de la variété quand elle pousse. Et le nom de la pâte, c'est du anko. On vient donc effectivement la garnir au centre du biscuit et le refermer avec un deuxième petit biscuit. Pour terminer, on va faire chauffer un petit objet en laiton qu'on appelle un yaki-in. Donc en fait, c'est du laiton, c'est du fer et du laiton qui va être sculpté. Voilà, en différentes formes traditionnelles. Vous avez des feuilles de cerisier, tout un tas de représentations selon les fêtes aussi, les fêtes et les moments importants de l'année au Japon. Nous, on en a fait faire avec notre petit tomo, donc les deux petites lunes voilà, qui représentent l'amitié franco-japonaise. Et on va donc le chauffer directement dans la flamme. Et ensuite, on va venir tatouer notre petit dorayaki juste là. Ça va le griller un tout petit peu plus. Ça lui fait une espèce de petit tatouage, effectivement. On va le tester d'abord. Oh oui, il est chaud. Et voilà. Ça fume légèrement. On a une belle odeur de grillé.
Guillaume Loiret, comment est-ce qu'on dit gourmandise en japonais ?
Pour le gourmandise, les Japonais utilisent le mot danyoku. Danyoku, le mot important là-dedans, c'est yoku. Là, c'est un mot composé. Yoku, c'est le désir en japonais. On peut l'utiliser pour parler du désir charnel ou d'autres désirs. Et avec don placé devant, ce sera plutôt le désir de s'alimenter. Moi, je pense à un autre truc. Là, il y a quelque chose qui est espèce de raffinement érotique assez élaboré au Japon. Il y a une époque, et peut-être que ça se fait encore maintenant, dans certains clubs de gens friqués masculins, on mangeait des sushis qui étaient présentés sur le corps d'une femme qui était allongée et qui était complètement nue. C'est juste un corps, hein, donc le corps d'une femme nue, on a disposé tous les sushis sur son corps et on se sert à la main, parce que le sushi on peut le manger à la main au Japon, on se servait directement sur le corps de la femme. Et là, évidemment, la gourmandise, donc le danyoku, s'approche de ce qu'on appelle le seiyoku, le désir sexuel.
Merci au journaliste Guillaume Loiret, spécialiste du Japon, et à Romain Gaillard, responsable de la pâtisserie franco-japonaise Tomo à Paris. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, une émission proposée par Michel Pomared. À suivre, la cuisine pour les hommes.
ou presque.
Bœuf, araignée de mer et caviar, royal d'araignée de mer, cœur de filet de bœuf de Salers, au caviar au cirque. Petite quenelle au caviar pressé, galette de blé noir au navet blanc.
Premier ingrédient, archives INA 1954, Raymond Oliver.
Mais oui, mais enfin, les crêpes, c'est très simple. Enfin, tout le monde sait faire ça.
Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. On commence par de la vanille. Tout son arôme.
Tout son arôme. Ah, oui.
Du sel. Et deux grosses pincées ou quatre petites pincées. Du sucre, je vais mettre environ 4 cuillerées à bouche.
Et vous voyez ça comme ça?
Oui.
Coup d'œil, vous.
Un quart de litre de lait environ. De la farine, voyez-vous, je vais la placer en puits et je vais en mettre environ 400 grammes.
Et vous voyez ça à vue de nez, naturellement?
Oui, à vue de nez. De l'huile, voyez-vous. Environ 2 cuillerées à soupe. Des œufs, je vais en mettre 8. On va travailler quelques minutes pour qu'elle soit bien, bien lisse. Elle souffle un petit peu, elle est bien. Mon lait.
Lait vanillé.
Vanillé, et lequel est très, très chaud.
Vous préparez quelle quantité de beurre?
Centaine de grammes environ.
Deuxième ingrédient. Le petit-fils, Bruno Oliver.
Oui, oui, c'est mon grand-père. Et là. J'en suis fier. Et j'en ai toujours été fier, mais plus particulièrement quand 60 années après, vous nous passez donc un moment de télévision, un moment magnifique où il est encore là, bien vivant et avec cette joie de vivre extraordinaire.
1954-1968, Raymond Oliver, il est dans le petit écran avec Catherine Langer à ses côtés. D'abord, ça s'appelle « Les cuisines du chef », et après, ça devient « Art et magie de la cuisine ». Et c'est en fait une star, votre grand-père, à la télé.
Oui, c'est devenu une star très rapidement, on va dire presque par accident, puisqu'il a été invité par les dirigeants de la télé. Il y avait un magicien qui ne s'était pas présenté, et ils mangeaient au Grand Véfour, et ils ont dit à Raymond, si tu as un peu de liberté, viens à la télé et fais-nous une recette. Et Raymond a accepté, et ça a duré un long moment sur la seule chaîne de télévision, en noir et blanc, et c'est devenu un personnage familier qu'on invitait à la maison, qu'on prenait du plaisir à retrouver, et qui chaque fois éblouissait par sa faconde, son côté chat. Il retombait tout le temps sur ses pattes, il n'était jamais pris de court, et il ne peut susciter que notre admiration, ceux qui avons fait un peu de télé et de radio, parce qu'il travaillait sans filet, c'est-à-dire que tout était en direct quand même.
Voilà, maintenant nous allons ajouter le parfum, car la vanille...
Ça n'est pas parfumé ?
Non. Dani, n'est-ce pas?
Ouh là là!
Oui, il faut en mettre beaucoup. C'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ 3 fois plus ou 2 fois plus que je n'ai mis Dani, c'est-à-dire un tiers environ Dani, 2 tiers de rhum.
Et en tout?
Et en tout, ça doit donner un très grand verre à vin, un très grand verre à vin de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin d'un quart de litre.
La recette de Raymond, donc cette retransmission qu'on peut visualiser aujourd'hui grâce à l'INA, ça a eu un succès fou. Mais est-ce que c'est une recette digne de... Enfin, dans les règles de l'art, on pourrait dire.
Bah non. Ah non, quand même. Alors, si vous imaginez aujourd'hui un restaurateur 3 étoiles, quand même, c'est-à-dire c'est le sommet, faisant une recette aussi transgressive, provocatrice, drôle, et une recette quand même pour ceux qui aiment faire la fête. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une profession de foi. Hein. C'est-à-dire, suivez-moi un peu dans mes excès et vous n'en souffrirez pas. Donc, soyez fous, vivez avant toute chose, mangez, jouissez de toutes les manières possibles, et la nourriture, la bouche, ça en fait partie.
Donc, 1954-1968, Raymond Oliver fait l'Access Prime Time, on dirait, parce que c'est avant le journal télévisé qu'on découvre les recettes de votre grand-père.
Oui, c'est ça, oui.
68, tout ça bascule, mais avant, en 1959, il y a une autre émission, moins connue, c'est La Cuisine pour les Hommes.
Pourquoi La Cuisine pour les Hommes?
Eh bien, parce que je pense que les hommes sont un peu déshérités dans la vie. Vous savez, on leur donne beaucoup de choses à faire quelquefois, parce qu'ils ne font pas la cuisine que pour s'amuser. Il y a des moments où ils font la cuisine aussi pour rendre service à leur femme, ce qui arrive même assez fréquemment.
Ça peut.
Et alors, je voudrais que lorsque la femme a laissé un tout petit morceau de papier en disant « Fais cuire les sols pour les enfants, tu les trouveras dans le réfrigérateur », il faut tout de même qu'ils sachent comment il faut faire cuire ces sols. Parce que cuire des sols, c'est quand même un problème. Alors, je voudrais aider ces hommes très déshérités, comme j'essayais de vous le dire tout à l'heure. Eh bien, je voudrais essayer de les aider. Je voudrais essayer de les aider en leur expliquant comment se font les choses les plus simples et plus petites.
Vous allez faire de la cuisine simple ?
Extrêmement simple.
Là, on découvre que Raymond Oliver s'adresse à la gente masculine qui veut cuisiner. Et il donne pas que des recettes, il donne quasiment un mode d'emploi de qu'est-ce que c'est que la cuisine pour les hommes. C'est pour le plaisir. L'homme cuisine pour le plaisir. Est-ce que c'est ça que votre grand-père vous a transmis, Bruno Oliver ?
Essentiellement, alors ça a de la portée ce que vous dites. Bon, ensuite c'est devenu un très joli livre, La cuisine pour les hommes. Et effectivement, transmettre cette cuisine pour le plaisir, c'est aussi, et c'était bien de l'époque, de se démarquer de la cuisine obligatoire que l'on faisait dans les foyers. Et c'était les femmes qui s'y collaient. Donc d'un art de dire, bah nous les hommes, on fait ça pour nous faire plaisir, pour rigoler, pour nous détendre. Et c'est vrai que c'était un peu comme ça à l'époque, même dans les restaurants, en tout cas de sa génération, c'est-à-dire sa maman, Cécile, et sa grand-mère étaient des cuisinières hors pair. Ça a un peu commencé comme ça. C'était pas véritablement un métier d'homme, et les hommes se le sont accaparés, et ils ont mis cette notion de plaisir. Aujourd'hui, on parle d'amour. C'est un bien grand mot. Le plaisir, moi, ça me va très bien. En donner, en recevoir, c'est largement suffisant pour s'impliquer dans une tâche qui, a priori, peut paraître un peu compliquée.
Carré frotté d'un cahier de brebis en tandoori et timbales de riz à l'oseille pourpre. Escargot, petit gris, sauvage, lié d'un pesto de cerfeuil. Feuilles, cigarettes ou de chou Shanghai, panis, deux personnes.
Troisième ingrédient, évocation de Louis, l'arrière-grand-père. Plantons le décor, hôtel du Lion d'Or à Langon en Gironde, ici même, et c'est à partir de ce lieu-là que naît une génération de cuisiniers.
Oui, alors absolument. En gros, c'est ça. Simplement, bon, Louis, à l'hôtel, Cécile va admirablement recevoir les clients. C'est une fonction terriblement importante. Et puis gérer, parce que Louis, il sait pas compter. On n'apprenait pas ça à l'époque, quoi. Il va acheter des ortolans sur le marché des allées Maubec qui sont devant. Il les paye pratiquement de sa poche et il dit au producteur, surtout tu dis rien à ma femme. Donc il allait lui taper un peu sur les doigts. Donc c'est cette cuisine-là qui est extrêmement généreuse, dans laquelle on s'implique, dans laquelle on veut faire plaisir. C'est ça que Louis a transmis à Raymond, c'est ça que Raymond a transmis à Michel, et ainsi de suite.
Quatrième ingrédient. La fille de Michel, la sœur de Bruno, Clémentine.
Ah ben moi j'étais garçon manqué, hein. Et j'ai toujours grandi dans les jupes entre guillemets, enfin ce n'est pas possible, mais dans le tablier de mon père, je traînais toujours à regarder ce qui se passait, tout ça, mais j'évitais soigneusement de me mettre dans le métier par la trouille totale et absolue de ces immenses ascendants pour lesquels j'ai infiniment de respect, et donc j'avais pris un parcours absolument différent, j'avais évité, j'étais psy, je me suis spécialisée avec les enfants autistes et les enfants qui avaient des maladies rares à expression psychiatrique, et puis je me suis aussi formée, j'ai aussi eu un parcours de psychothérapeute dans mon métier pendant 15 ans.
Clémentine Oliver, racontez-moi cet appel de la gourmandise finalement qui vous a pris un jour.
Le manque, Je suis très gourmande. J'ai toujours été très gourmande. Et les repas de famille chez nous, ils durent. On commence à 1h, à 5h, on est toujours à table, à traîner, à discuter. Et puis on partage, on discute. C'est le moment où on est tous ensemble. Et on partage. Et je me retrouve, quand j'ai découvert que j'étais intolérante au gluten, pendant 10 ans, j'ai souffert, je ne savais pas de quoi. Et à 37 ans, on m'a dit c'est le gluten. Moi, quand on m'a dit c'est ça, j'ai dit glu quoi. Et quand j'ai arrêté, toutes les douleurs se sont arrêtées. Alors j'étais au stade 2 sur 3 de la douleur. Toutes les douleurs se sont arrêtées. J'ai repris ma santé, ma forme, tout était à nouveau normal et j'ai dit bon bah il faut bien que je me résolve à l'arrêter vraiment. Mais j'arrivais pas à être heureuse parce que le pain me manquait énormément. Je bavais devant le cake au citron de famille, je bavais devant les baguettes, je bavais, et puis j'avais mon pauvre petit truc et je disais mais c'est pas ça la vie c'est la générosité, le partage, être ensemble. Et donc c'est là que l'idée m'est venue, puisque papa lui quand il me faisait des repas le dimanche, il me faisait évidemment sans gluten et c'était bon. Donc c'était le seul endroit où je trouvais quelque chose de vraiment bon. Et l'idée m'est venue de faire des recettes avec lui. Seulement, je n'étais pas du tout du métier. Donc j'avais évidemment vachement la trouille. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu serais OK? Moi, j'étais sûre qu'il allait redire non. Mais il m'a dit, oui. Bon, tu vas devoir bosser.
Cinquième ingrédient. Michel, le père de Clémentine et de Bruno.
Regardez devant moi, j'ai de la levure du boulanger. Le paquet de levure du boulanger pèse 40 grammes. J'en prends un peu moins de la moitié, c'est-à-dire 15 grammes, que je mets ici dans un petit, un petit saladier, n'importe quoi. Et devant moi, j'ai de l'eau tiède. J'ajoute une belle cuillère à soupe d'eau tiède dans cette levure. Et puis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais commencer à mélanger le tout.
Et puis, l'amour de la pâte est arrivé. Il y a une sensualité dans la pâte quand je la touche. Comment dire, elle me parle. Je sens quand est-ce qu'elle a besoin d'être plus travaillée, quand elle a besoin de plus pousser. J'entends pas de voix, je rassure mes confrères et consoeurs psy de l'époque. Mais elle me parle. Elle vibre, la pâte. Et surtout la levure, puisqu'elle est vivante. Et on aime toucher la pâte. On appelle des toucheurs de pâte. On aime toucher la pâte ou on n'aime pas. Et moi, j'adore ça. Donc, quand je façonne tous mes pains à la main, donc je trouve que ce qu'on touche, c'est la continuité de nous-mêmes. Et c'est là que j'ai compris que j'allais me destiner vers autre chose. Donc, le parcours a été long. J'ai continué. Je me suis inscrite en candidat libre par la ville de Paris pour passer le CAP cuisine. Et je me suis aussi préparée au CAP pâtisserie. J'ai passé le CAP cuisine parce qu'on peut passer 15 CAP par an. Je me suis formée chez Christian Constant aux Cocottes où j'étais... hyper heureuse, mais j'ai appris énormément. Et dès que j'ai eu le CAP, le 7 juillet 2014, j'ai eu le résultat à 11h30. À 14h, je donnais ma disponibilité dans le bureau de la direction et j'ai monté ma société et j'ai quitté.
Bruno Lever, dans votre livre aussi consacré à la cuisine de votre grand-père, il y a un autoportrait de vous en trois adjectifs. Cueilleur, pêcheur, chasseur. Alors, on va aller dans votre cuisine et vous allez nous décliner ce triptyque cueilleur, chasseur, pêcheur.
Sixième ingrédient, la recette de Bruno.
Vous voyez les produits de notre terroir, c'est-à-dire que cueilleur, voilà, ce sont ces merveilleux petits cèpes. Regardez comme il est joli. On dirait un peu un paysan basque. Avec le béret, le petit ventre, on voit qu'à l'époque, il peut pousser en mêlée, quoi, à la limite. Donc c'est déjà terriblement beau. Pêcheur, c'est plutôt Alexandre, j'aime ça, mais c'est un peu trop passif pour moi. Alexandre est un formidable pêcheur, mon fils. Chasseur, tout simplement. Alors ça paraît un peu radical aujourd'hui, un peu violent. Simplement, si vous voulez, il y a la chasse, c'est avant tout une manière, une méditation. Nous avons tous ça en commun. Cet amour inconditionnel de la nature qui nous nourrit. Quand on parle de gastronomie, on parle de gibier, on parle de champignons, on parle de poissons sauvages.
La recette de ce soir, c'est quoi ?
On a le persil du jardin, on a des œufs fermiers, on a des cèpes, on va faire une omelette aux cèpes et on va voir qu'effectivement, dans ce côté, on peut penser qu'on est au plus simple et en fait, on est au plus compliqué.
Action !
Action !
L'omelette au pastis, même les femmes me lèvent, en mangent comme le dis. L'omelette au pastis, miam miam miam, Miami, avant nous du paradis. Alors voilà maintenant la liste des ingrédients. Il vous faut avoir du beurre, de l'huile, du sucre, 6 œufs pour une petite omelette, du pastis bien sûr, et du piment de Cayenne en poudre. Vous avez tout ça, alors on y va.
Dans la famille Oliver, l'œuf a l'air d'être un élément ou un aliment important. Racontez-moi, vous, votre rapport à l'œuf.
Ah bah, vous venez de dire, vous avez parlé d'omelette, c'est fabuleux, parce que c'est exactement, c'est ce que faisait comme test mon arrière-grand-père, quand il engageait quelqu'un, il lui faisait faire une omelette. Dans la famille, l'omelette, c'est fabuleux. Et l'œuf, et chez nous, pour mon père aussi, surtout mon papa, un élément magique.
Donc, on a ces champignons magiques. On va les couper un peu à 1 cm. Ça, c'est très important. Parce qu'à 1 cm, ils vont garder de la fibre. Ils ne vont pas se diluer, ils ne vont pas se gorger de gras. On met la poêle en route. Alors, poêle très importante, parce que ça sera la poêle à cèpe. Donc, c'est une poêle culottée. On va mettre la valeur de 2 cuillères à soupe d'huile. Et on va positionner la cuisson... pour l'instant sur feu doux, et on va faire cuire à peu près 7-8 minutes de chaque côté. Alors vous l'avez compris, c'est une cuisson douce. C'est comme les viandes blanches, c'est comme le veau, c'est comme les légumes, il ne faut pas les violer. Hein. Il faut y aller tout doux. Ah, ça commence à chanter. Voilà. Ça c'est bien. Donc ça nous parle. Et pendant ce temps-là, on va casser les œufs. Alors, très important, les œufs. Il va falloir en compter 2 par personne, plus 1. C'est-à-dire que si on est seul, ça sera 3. Si on est 2, ça sera 5, ainsi de suite. Et ça sera pareil d'ailleurs pour l'assaisonnement, vous allez voir. Donc, allons-y avec les œufs. Alors là, je vais procéder, comme disait Raymond tout à l'heure, avec les crêpes. Alors, 4 pincées de sel, soit des petites pincées, soit 2 grosses. Alors là, on va mettre des petites pincées, parce que regardez, c'est une pincée de sel par œuf. Voilà. Voilà. Et puis, bien sûr, on met toujours une pincée pour la poêle. Ça, c'est très important. On va regarder les cèpes, où ils en sont, parce que ça doit faire 2-3 minutes. Normalement, ça doit commencer... Vous voyez, ça prend tout doucement une petite couleur. Voilà, c'est bien ça qu'on veut. Donc là, c'est parfait. On va retourner à nos œufs. Et maintenant, une opération qui est alors typiquement, je dirais, langonnaise. Il faut poivrer beaucoup l'omelette. Ainsi, on va amener ce petit brin de folie supplémentaire. Donc on va parler là d'une bonne pincée. Mais alors, une bonne pincée de poivre noir, c'est-à-dire du poivre avec l'écorce. Voilà, regardez. Et ça semble beaucoup quand même. Hein.
On voit plus l'œuf.
C'est vrai, en tout cas, on ne le voit plus beaucoup. Donc là, on est bien. On va émulsionner. Alors avant, j'ai quand même... Voilà, ce persil est magnifique. C'est du persil plat du jardin. Il ne rentrera pas d'ail dans cette omelette. On ne veut pas tuer le goût ni du champignon, ni de l'œuf. Donc on ne va mettre que ce persil plat. Vous voyez que je suis en train d'émincer très facilement. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est vert. Un bol très important, mon grand-père m'aurait engueulé là, parce qu'il me dit « Il faut un bol en terre, petit !» Il n'est pas en terre, mais il va faire la blague, et on va essayer de battre les œufs en aérant au maximum. Vous voyez ce mouvement circulaire? Vous voyez? C'est celui-là qu'il nous faut. Voilà. C'est un mouvement important, vous voyez, on fait... Regardez là, si c'est beau, la volute que font les œufs, les jaunes se mélangent, c'est parfait. Là... on a notre truc. Donc, vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Vous l'avez en direct. Et maintenant, on va passer à la confection de l'omelette. Nos cèpes sont quasiment prêts. Je les retourne maintenant pour leur assurer une cuisson supplémentaire. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais qu'ils restent un peu al dente. Donc ça, c'est important. Regardez si c'est beau.
Hein ? Les œufs battus, versez le tout dans une poêle chaude, puis avec une spatule en bois, vous rassemblez ce qui est cuit, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, pour faire comme un feuilleté. Alors, lorsqu'il ne reste qu'un peu d'œuf liquide, vous retournez pour faire cuire de l'autre côté. Et voilà.
Ah, ouais, ouais, mais toi, ça c'est certain.
Archivina, 1982, Michel, le père de Bruno.
Non, madame, mademoiselle, monsieur, ça n'est pas de gin tonique.
C'est votre émission préférée, votre émission qui... Bonne année d'abord, qui ayant lieu un 1er janvier à midi et quart, alors que vous êtes comme moi en robe de chambre, il n'est pas question que je vous fasse de la cuisine. Par contre, je voudrais vous adresser quelques reproches. Ça a été bien la fin de l'année, hein ? Vous en avez mangé de la dinde, vous en avez mangé des marrons, vous en avez mangé du chocolat, oh le chocolat, vous en avez mangé, enfin, tout ce qui est lourd, tout ce qui est riche, et puis le champagne, et puis les alcools, c'est bon tout ça, hein ? Est-ce que vous rentrez toujours dans votre pantalon ? Dites-moi la vérité, pas vraiment, non ?
Votre père, Michel, est aussi passé à la télévision, et il y a une archive aussi que j'ai retrouvée, où on le voit 31 décembre en peignoir. Et tout d'un coup, on découvre l'aspect comédien du cuisinier. Est-ce qu'il vous a transmis ça aussi ?
Ah, mon père, effectivement, lui, c'était le deuxième cuisinier à avoir fait la télé. Entre-temps, entre mon grand-père et mon père, il n'y a eu personne. Et lui, mon père, est extrêmement minutieux. Il a l'habitude de faire minimum 3 essais de préparation pour mettre au point et 3 essais de confirmation. Et quand il faisait ses émissions, c'était pareil. Il faisait 3 répétitions et ensuite... Il retravaillait, donc tout était très tramé et il avait toujours des invités qui, eux, n'étaient pas du métier pour justement se mettre à la portée du public et être très didactique, ce qui fait que ses recettes sont ratables quand on les suit. Et il m'a transmis ça. Il m'a transmis le fait que quand on fait des recettes, puisqu'on a fait des vidéos sur YouTube, et c'est mon père qui me filmait et qui m'a entièrement coaché, notamment pour découper les légumes quand on coupe pour que ce soit pas comme on coupe d'habitude, mais et quand on verse, que ce soit pas comme d'habitude vers nous, mais vers la caméra. Et Il m'a tout appris, on peut dire.
C'est pas beau, ça ? Écoutez-moi ça. Voilà. Là, c'est reparti. C'est très, très chaud. Et maintenant, nous allons rajouter le persil qui va prendre sa crépite. Voilà, je verse les œufs. Écoutez, ça change de son. Ça souffle un peu. Voilà. Donc là... Nous avons tout autour, on voit que ça commence à se coaguler. Et maintenant, il faut travailler avec force et vigueur. Regardez, ce mouvement de la poêle d'avant en arrière. Et avec la spatule, on va promener la spatule au milieu de l'omelette, de façon à faire comme si on voulait faire des œufs brouillés. Regardez la beauté des cèpes qui sont par-dessus. On va pouvoir la tourner. Donc, je prends la queue de la poêle de la main gauche, et avec la spatule... Je vais retourner l'omelette, comme ça, vous voyez, je la roule, ça c'est très important, voilà, donc là, elle a pris à peu près sa forme, à peu près, on va la dorer, on va la laisser encore sur feu vif pendant à peu près une vingtaine de secondes, maintenant qu'elle est roulée, et regardez ce mouvement, il est très rigolo, je tape avec le poing sur la queue de la poêle, et voilà, et là, elle s'est roulée de l'autre côté. Alors ça, c'est mystérieux, et ça marche très bien. Et voilà notre omelette. Voilà. 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 Si c'est pas beau, ça, madame. Hein ?
Septième ingrédient. Alexandre, le fils de Bruno.
Alexandre, je suis dans la cuisine de votre père. Bruno, 4 générations vous regardent, vous dominent, on pourrait dire, dans la famille Oliver. Est-ce que vous avez eu le choix de faire autre chose que ce que vous faites aujourd'hui ?
C'est vrai que c'est une question finalement qui revient souvent à mes oreilles. J'ai envie de dire, est-ce que j'ai eu le choix ? Oui, on a toujours eu le choix. Après, si mon père avait été maçon, est-ce que j'aurais bossé dans la maçonnerie ? Probablement. Après, une fois plongé dedans, finalement, j'ai découvert une passion qui a animé toute une famille depuis plusieurs générations et puis voilà, quoi.
Alexandre, est-ce que être pâtissier, c'est tuer le père ?
Non, pas du tout. En fait, moi, je voulais être cuisinier. Et je trouve que, finalement, la cuisine, c'est pour moi, c'est une plus grosse source d'inspiration que la pâtisserie. C'est juste que, avant d'être dans ce métier-là, j'étais complètement accro et obsédé par tout ce qui était artistique et graphique et les formes et les couleurs. Je passais beaucoup, même plus de temps finalement à dessiner et à faire des graffitis qu'à me concentrer sur les cours. Et j'ai toujours été attiré par ça. Et finalement, c'est vrai que quand j'ai commencé à entrer dans la pâtisserie, j'ai très vite compris que ce que je mettais avant sur papier, je pouvais le mettre sur une assiette.
Clémentine Oliver, si la famille Oliver, c'était une recette, vous sauriez quel ingrédient ?
Ah, je ne saurais pas répondre à ça. Celui qui peut prendre avec toute la famille. Je ne saurais pas lequel. Il y a beaucoup d'éléments qui font prendre, mais la levure est indispensable. Je ne sais pas si je saurais la levure. Pour faire une plage, il faut plein de grains de sable. Je ne me considère pas plus qu'un grain de sable.
Clémentine Oliver, est-ce que la gourmandise, c'est un péché ?
Pour moi, non. Pour moi, c'est indispensable à la vie. Pour moi, c'est... Non, à aucun moment. Puisque, enfin, moi, je peux pas... C'est mon moteur, la gourmandise. Si j'avais pas été gourmande, et si je n'étais pas gourmande, je ne ferais pas tout ça. Encore aujourd'hui, je travaille depuis 7 ans sur la pâte feuilletée. J'y suis pas. Je suis pas loin, hein, mais le résultat n'est pas encore aussi beau que celui que je voudrais. J'adore ça, et je rêve de croquer dans un croissant. Je rêve de manger une galette des rois. Au moment de la galette des rois, je vous jure, je me mets derrière les bouches d'aération des boulangers qui quelquefois sont en bas et je respire l'odeur parce que ça me manque tellement.
Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on ouvre une bonne bouteille de vin de Bordeaux et qu'on goûte cette omelette avec du pain de campagne, farine de meule au levain, bien sûr, grillé. Parce qu'il ne faut pas acheter d'autre pain que celui-là, c'est celui-là qui nous rappellera chaque fois notre enfance.
Bruno Oliver, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Est-ce que, pour être un homme chez l'Oliver, il faut être derrière les fourneaux ? Et vous avez dit, c'est pas beau, madame. Est-ce que le péché de gourmandise, la cuisine, c'est aussi une histoire de séduction ? Votre grand-père parlait de cuisinier comme d'un comédien. Cécile, votre arrière-grand-mère, disait que dans la pâtisserie de Louis, c'était la garçonnière de Raymond. Est-ce qu'on peut allier la cuisine à la sexualité, à la séduction ?
Mais très certainement. Est-ce qu'il y a une sexualité ? Mais bien sûr. Je veux dire, on ne pourra pas ici avoir... Enfin, je veux dire, si on veut vraiment une soirée de rêve, on ne peut pas imaginer que cette soirée ne commence pas par un bon repas, par partager une liqueur, une boisson, un champagne, quoi que ce soit, et sacraliser d'une certaine manière. Michel Guérard, Jean-Marie Amat, Manière, Delavenne et tous, de temps en temps, ils se penchaient en salle et ils me disaient... Tu penses qu'ils vont faire l'amour après ? Et je, oui, chef. Ah oui, oui. Ah oui, ça, c'est sûr. Hein, ils vont faire l'amour. Et pour lui, c'était encore plus important que de savoir s'ils avaient bien mangé.
Donc, Bruno, quand on dit péché de gourmandise, en fait, vous l'interprétez d'abord la gourmandise dans le plat et ensuite vient le péché.
D'abord, la gourmandise, c'est pas un péché. La gourmandise, c'est... Ça fait partie du truc, quoi. Hein, ça fait partie de la vie. Après, je dirais, il faut un peu de modération. Et puis, je vois pas de ceux qui ont dit que c'était un péché va nous enseigner quoi que ce soit, parce qu'il faut pas oublier que ce sont eux qui ont fait les camemberts, la bénédictine, la plupart, dont Pérignon. Donc, les gars, vous l'appliquez d'abord à vous-même. Dégustation.
Merci à Clémentine Bruno et Alexandre Oliver.
C'est bien joli, ça. Moi, je vais attraper une assiette. Parce que quand même...
Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, une émission proposée par Michel Pomarez.
Une histoire particulière, c'est fini. Cette histoire, ce podcast, sur le site de France Culture. Elle se réécoute partout, où vous voulez, quand vous voudrez. Et toute la bibliographie qui accompagne ce documentaire est sur franceculture.fr. Je vous retrouve dimanche prochain, à 17h, pour la suite de la collection été 2018 d'une histoire particulière, mais c'est une autre histoire.